Il y a un type qui s'appelle Albert Camus, pas juif. Vous connaissez Albert Camus. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Le mythe de Sisyphe. Vous m'entendez, ça va? C'est un bouquin qui s'appelle Le mythe de Sisyphe. Et il pose une question, qui est une bonne question. Il dit, pourquoi je vis? À quoi ça sert? C'est la question basique existentielle qu'on est censé, se poser. Au moins une fois dans sa vie. Il dit, je sens que ce monde a un sens. Je ne suis pas là comme ça pour rien. Jusqu'il y a environ 50 ans, il y avait deux théories sur l'existence du monde. D'où vient le monde ? La théorie grecque disait « Olam Kadmon », c'est-à-dire le monde a toujours été. Il n'y a pas de question, un jour ça a commencé. Ça a toujours été, comme ça. Et ça sera toujours, c'est infini. Big Bang, au niveau de la pensée, il y a un Big Bang qui se passe, c'est que deux physiciens, astrophysiciens, perçoivent l'onde de choc du Big Bang. Aujourd'hui, c'est clair. C'est plus une théorie, c'est une réalité. On sait qu'il y a environ 15 milliards d'années, le monde a commencé. Il n'y avait rien. Tout à coup, il y a eu. Et on peut dire aujourd'hui que tous les astrophysiciens, presque tous, sont des croyants. Je ne dirais pas qu'ils croient au Dieu d'Israël, ou même la notion de Dieu, mais ils croient en la notion d'un créateur. Ce n'est pas possible que s'il n'y a rien, tout à coup il y a. C'est pas que ça, par hasard deux enzymes se sont rencontrées et ont fait tout à coup qu'il y a un être humain. Il n'y avait pas d'enzymes, il n'y avait rien. Tout à coup, il y a. Ben forcément, il y a. Appelez une force, d'accord. Il y a une force, il y a un agent, il y a un. Appelle comme tu veux, un schmilblick, d'accord, un schluff, ce que tu veux, qui l'a fait. D'accord. Ce truc-là, il a créé un monde. Un monde extrêmement complexe, extrêmement performant, parfait, au niveau, à part nous on est ratés de l'histoire. Tu prends le monde au niveau écologique, au niveau, ça marche bien, ça tourne rond, hein. Tous les matins le soleil se lève, ça fonctionne. Albert Camus pose une question, ok, alors à quoi ça sert? Il dit, je sens que je ne suis pas là pour rien. Il y a un but. Non seulement c'est logique, parce que c'est tellement performant, c'est tellement calé ce monde, donc forcément il y a quelque chose qui... Il y a une raison pour. Mais j'ai besoin, je sens en dedans de moi, j'ai une soif de sens. Prazonich. C'était son Yorkside à Ilula, il y a une semaine, quelques jours. Il écrit un bouquin qui s'appelle Chazonish. C'est un grand rabbin de Bnei Brak ici, il a décédé un peu plus de 50 ans. Un des grands rabbins, c'est lui qui a fondé Bnei Brak, on peut dire. Il écrit un petit bouquin très sympa qui s'appelle Chazonish. Et là-bas, il dit, imaginons un être humain qui vient de naître. Mais, pas comme aujourd'hui les enfants naissent complètement inconscients. Il vient de naître, mais il a 20 ans. Il a les mêmes facultés qu'un être de 20 ans. Mais, à la différence que le type de 20 ans, ça fait 20 ans qu'il vit dans ce monde, ce type-là, il vient de naître. Il y a une seconde, il n'était pas là, tac, tout coup, il est là. Voilà. Alors, il vient de naître, et il vous voit là. Il dit, qu'est-ce que c'est? Bon, il comprend qu'il y a lui, puis qu'il y a vous. Il voit sa main. Est-ce qu'il sait que sa main, c'est lui? Qu'est-ce que vous croyez? Pardon? Ouais. Il analyse, ouais. Mais il ne sait pas encore que c'est lui. Il vient de naître il y a une seconde. Il voit une main. Il voit se relier à quelque chose. Il n'a pas à voir à quoi c'est relié parce que ça monte ici. Mais il ne sait pas que c'est lui. Par les yeux, d'accord, je vois. Donc c'est direct. Dans mon corps, je ne sais pas encore que c'est moi. Regardez un gosse qui vient de naître. Alors il voit, il comprend que ça, il y a lui, et le monde extérieur. Mais ses mains, il ne sait pas que c'est lui. Des fois, un enfant, un bébé, il se griffe, sans faire exprès. Alors, vu que ça lui fait mal, il se crispe, et il se griffe encore plus. Il se tient comme ça, il hurle, parce qu'il est en train de se faire mal. Puis un beau jour, vers l'âge de 4, 5 mois, tu le vois dans son berceau, il fait comme ça. Il comprend que c'est lui. 4-5 mois qu'il faut, c'est... Très lentement, la personne commence à comprendre qu'elle a un corps. Alors à l'âge de maintenant, ça ira plus vite. En 10 minutes, il sera branché. Ok, les mains, ça sert à prendre, les pieds à marcher, les yeux pour voir, nez respirer, la bouche parler, manger. Ok. Et tout ça, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait là? Il y a un monde. Expliquez-moi, c'est quoi le but de l'opération? Ne pose pas de questions, vas-y. D'abord, faut vivre. T'as l'estomac, faut une maison, faut une femme, faut de l'argent, faut payer une tombe à la fin. Ok, mais stoppons avant. Ok, ça c'est faire marcher la machine. Mais à quoi elle sert la machine? Il y a bien un but. Je ne vous dis pas, c'est pas du judaïsme, c'est pas de la Torah que je fais maintenant, c'est de l'humanisme basique. Albert Camus, c'est pas un juif. Il dit, j'ai une soif de sens. Parce que si je vis dans ce monde, et je passe à côté des vraies raisons du pourquoi, eh bien, j'ai raté. Là, en Torah, on parle un peu Torah maintenant. Torah, hein, en Torah, on croit qu'il y a des péchés. C'est péché de dire péché, d'accord? C'est faux. Il n'y a pas de péché. Il y a en hébreu, le péché, on l'appelle chet. C'est quoi chet? Quelqu'un fait l'armée ici? Quelques-uns? Alors quand tu rates la cible, comment tu dis? Erti. Erti tatamatara. Chet signifie raté. Nous sommes après tout la machine la plus performante de tout l'univers, l'être humain. Des capacités extraordinaires. Mais si maintenant tu utilises la machine la plus extraordinaire, tu as un ordinateur, tu as une équipe de 100 informaticiens les plus calés au monde, les ingénieurs les plus calés en informatique du monde, pendant 10 ans travaillent sur ce projet. Ordinateur qui est extra, il peut faire des trucs invraisemblables. Toi tu as des milliards, il faut entrer dans cette... il prend toute la maison, une chambre entière, d'accord. Et tu vois que quand tu appuies sur le clavier, ça fait des belles lumières, tu peux mettre ton agenda. Oh, c'est sympa comme appareil. Allez, j'achète. Qu'est-ce qu'on dira? C'est un crétin, c'est raté. Je veux dire, tu as une machine qui a une performance extraordinaire. Tu peux l'utiliser pour faire des petites lumières. Tu es l'être humain. Tu ne peux pas te limiter aux fonctions animales basiques, manger, boire, reproduire et mourir. Et entre nous, si on arrivait au moins à ça, moi je viens de Suisse personnellement. En Suisse, il y a des vaches. Les vaches suisses, très connues. Elles font du bon lait, du chocolat suisse. Je peux vous garantir, je pense qu'il n'y a presque aucun être humain qui arrive au bonheur d'une vache suisse. Elle n'a aucun problème. Il y a des beaux paysages, des bons pâturages, la musique, chlong, comme ça, les cloches, il y a de les hihi, il y a même des gens, d'accord. Elle fait du bon chocolat. Il y a des bœufs, il y a des vaches. Tout va très bien dans le meilleur du monde. Elle est parfaitement heureuse. Et j'imagine que comme beaucoup d'animaux. Nous, qu'on est censé être bien plus performants que la vache suisse, rare, je ne sais pas si ça existe, ce sont les personnes qui arrivent au bonheur de la vache suisse. C'est-à-dire que même à l'animal primaire, moyen, on n'arrive pas. Donc il y a bien un but, il y a quelque chose. À quoi ça sert? Et la question, mesdames et messieurs, on l'oublie. Parce qu'on est pris, t'es pas né maintenant. T'es né il y a 20, 25 ans, 30 ans. Je sais pas quel âge j'avais, 60 ans même. Donc t'es habitué, depuis que t'es petit, quand t'es petit, tu ne poses pas ces questions existentielles, pourquoi tu vis? Tu vis d'après les besoins, ça fait ta faim, il faut manger, d'accord? T'as mal, il ne faut pas toucher. est habitué à fonctionner de façon animale. C'est-à-dire, le corps, s'occuper du corps. Pour ça, il faut un diplôme, il faut de l'argent, il faut une maison, il faut une bagnole. Tu as aussi des pulsions un peu plus élevées. Kavod, il faut des honneurs. Pouvoir. Un peu les animaux aussi. Ils ont chacun son territoire, d'accord? Tu as le pouvoir. Et puis, tu as la relation homme-femme. Alors là, tu as les coqs, tu as les poules, tu as cocorico, cote-cote, d'accord? Le monde fonctionne comme ça. Sur les hommes qui font le beau et les filles qui font les belles. Mais ça, c'est les fonctions primaires. À quoi ça sert tout ça? Et on s'oublie. Nous, on s'oublie. On s'oublie. Parce qu'on est pris par cela. Parce que la question n'existe pas, elle est là. Elle est primordiale. La Kabbalah, une mystique juive, dit que l'être humain, Adam, en valeur numérique, c'est 45. Aleph, c'est 1. Dalet, c'est 4. Mem, c'est 40. 45. Gématria du mot, valeur numérique, c'est gématria. Valeur numérique du mot, ma. Ma, c'est quoi en hébreu, ma? Question. Quoi? L'être humain, c'est quoi son essence? En quoi nous sommes différents de l'animal? Nous sommes capables de nous mettre hors de nous-mêmes et nous dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je suis là? Pourquoi? Comment on dit en hébreu? Lama. Lama, ça vient de la lettre Lamed. Lamed, c'est la seule lettre de tout l'alphabet qui dépasse les autres. Toutes, en un certain modèle, la seule qui monte plus haut, le Lamed. Pourquoi? Elle regarde vers le haut. Il y a un sens. Nous sommes le seul être de l'univers qui est capable de fermer les yeux et de penser qu'il pense. L'animal, il est ce qu'il est. Il ne peut pas se mettre hors de lui, avoir un regard objectif sur lui. Il vit, mais il ne pense pas qu'il vit. Comment on dit l'animal en hébreu? Behema. Behema, ba, ma. En elle reste la question. Ba, dans son intérieur reste la question. La sagesse, l'intelligence, ce n'est pas la faculté de savoir beaucoup de choses. C'est la faculté de poser des questions intelligentes. On appelle ça en hébreu chorma. Chorma, le mystique juif dit, interverti les deux premières lettres, ça fait koar. La puissance de dire ma. Se remettre en question. Pourquoi je suis là? Quel est le sens? On est bien là pour quelque chose. Bon, Albert Camus écrit un bouquin, tu es le mythe de Sisyphe. À la fin, il conclut, je ne sais pas pourquoi je vis. Je suis incapable de savoir. Normalement, il dit, je devrais me tirer une balle. Parce que comment vivre une vie sans sens? Mais c'est un peu dur, c'est pas trop agréable de se tirer une balle. Alors, je continue à vivre, à vivoter, comme Sisyphe. Sisyphe, c'est quoi? C'est un héros de la... un dieu de la mythologie grecque, qui pousse un gros rocher au haut d'une montagne, ça arrive là-haut, ça dégringole de l'autre côté, et on recommence comme ça tous les jours. Une vie pénible, sans sens. Bon, ça c'est Albert Camus. Nous, on va aller plus loin quand même, parce que c'est tragique le constat. Il dit, je viens paradoxe terrible, j'ai soif de sens, et n'arrive pas à trouver le sens. J'ai un oncle, très vieux maintenant, multi, quelquefois encore, millionnaire on va dire. D'accord? À Londres. Et il a dit un jour à ma mère, sa sœur, je suis jaloux de ces Anglais. Ils sont capables de prendre une chope de bière dans la main droite, un hot dog dans la main gauche, regarder un match de foot, et c'est tout leur bonheur. J'arrive pas. J'aimerais pouvoir me débarrasser de cette question. Il est torturé, le pourquoi et le comment. C'est bien, nous on dit, on appelle ça Neshama. Les animaux, ils ont qu'appelle Nefesh. Nous, on a des degrés supplémentaires. Rouar, Neshama, Chaya, Echida, c'est tous les parties d'âme. Plus les parties d'âme sont hautes, plus elles te branchent vers l'âme, vers le haut. Ça veut dire le sens, la vérité. La vérité. Passe pas à côté de toi. Où est la vérité? Tu as une soif de vérité. Un animal n'a pas de soif de vérité. Un gosse, 7-8 ans, je ne pose aucune question. Pourquoi tu vis? Pourquoi je vis? Pourquoi je vis? Pour vivre heureux. Mais quel sens? Est-ce que tu cherches la vérité? Il ne comprend pas de quoi tu parles. Vers l'âge de 15 ans, pour les gens précoces, 20 ans, peut-être qu'il y en a qui toute leur vie, peut-être un peu, avant, un peu jour de, dans leur lit de mort, ils se réveillent peut-être des fois. Mais normalement, quelqu'un est capable de poser des questions, comme je suis en train de vous le faire maintenant, de réveiller un peu cela. C'est la question basique. Durant les cours que vous aurez ici, j'imagine que vous aurez une démonstration comme quoi la Torah est d'origine divine. C'est une chose qui est aisée de faire aujourd'hui, de façon irréfutable, c'est simple. Dieu existe. La Torah est d'origine divine. On en reparlera. Hein. Je dis ça en tant qu'affirmation pour pouvoir continuer, mais je n'ai pas encore prouvé ni argumenté. On le fera bien nader des prochaines fois. Alors, une fois que la question est posée, on attend la réponse. Dieu t'a créé un monde. Pourquoi? C'est quoi ton but dans l'histoire? Quel est le but de l'opération? Il est inhérent à la notion de divinité, d'y accoler la notion de perfection. Dieu, forcément, est parfait. On ne peut pas avoir une notion de Dieu qui n'est pas parfait. Dieu, c'est l'absolu, c'est parfait, c'est parfaitement bon, c'est... On est d'accord là-dessus. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il hurle, d'accord? Je ne suis pas là pour... J'aime quand ça, il y a des débats. Étant bon... C'est marqué pourquoi Dieu a créé le monde, étant bon, il est de sa nature de vouloir octroyer le bon. Vous voulez qu'on parle un peu plus profond aujourd'hui ou juste moyen? Hein? Pardon? Non, parce que des fois ça vole trop, puis on préfère rester moyen.
C'était pour des jeunes étudiants.
On peut. Et la question que je fais une petite parenthèse donc en train de dire quand on dit pourquoi Dieu a créé le monde. Il y a un problème dans cette question. Parce que si il y a une réponse à ce pourquoi, c'est-à-dire que Dieu a des besoins. S'il a des besoins, il n'est pas parfait. C'est pas Dieu. Si c'est Dieu, donc il n'y a pas de besoin. Donc pourquoi il crée le monde? Vous avez la réponse? Alors il y a un petit jeu philosophique. On dit n'importe quelle phrase la plus bête qu'il puisse y avoir. Comme c'est que les gens sont trop intelligents, ils cherchent les... Dites une phrase la plus anodine qu'il puisse y avoir. Je vous laisse 5 minutes de réflexion. Réfléchissez pas trop, ça va. C'est dur, hein, un niveau bas. Osez, mesdemoiselles, messieurs, osez. Hein? T'as faim. Merci. Sur cette proposition, j'ai faim, je pose la question, pourquoi? Pourquoi t'as faim? Il faut traduire ce que tu dis. Pourquoi j'ai faim? Mon corps manque d'énergie. Cette énergie, je peux la recevoir par de la nourriture. Donc mon corps exprime, il est programmé pour exprimer le manque d'énergie par un sentiment qui s'appelle la faim. Ok? Pourquoi le corps a-t-il besoin d'énergie? Là, je peux poser deux questions. Pourquoi? Pourquoi, quand le corps a besoin d'énergie, ça crée de la faim? Ou pourquoi est-ce qu'un corps, quand il manque d'énergie, pourquoi un corps peut arriver à une situation de manque d'énergie, il a besoin d'énergie?
Il n'est pas parfait.
Il n'est pas parfait. Pardon?
Il se fatigue.
Se fatigue. Pourquoi un corps se fatigue? Ça revient au même. Pourquoi un corps, lorsqu'il a donné de l'énergie, il est en manque, il a besoin d'une autre énergie? Il se fatigue, c'est la même chose. Pourquoi un corps se fatigue? En bon français. C'est la deuxième fois que je pose la question. Donc, pourquoi t'as faim? Parce qu'il y a un manque d'énergie. Pourquoi est-ce qu'un manque d'énergie, il crée de la faim? Pardon? Même chose, fatigue limitée. Oh, qu'est-ce que tu veux? Il est limité. Alors, pourquoi est-ce qu'il est limité?
Parce qu'il est conçu comme ça.
Très bien. Pourquoi est-ce qu'il est conçu comme ça?
Parce que c'est pas un système.
Hein?
C'est pas un système.
Ça, c'est avant. On est déjà arrivé à la réponse, parce qu'il est conçu comme ça. Il est en cycle, ok. Pourquoi il est en cycle? Parce qu'il est conçu comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il est conçu comme ça? Bonne question. Moi, je veux pas pourquoi pas, je veux une réponse. Pourquoi est-ce qu'il est conçu comme ça? Alors là, il y a deux réponses possibles. Les athées diront, c'est la nature. Le religieux dira, c'est Dieu. Mais des réponses, il n'y en a pas. C'est qu'il y a une donnée. La nature, vous savez, la nature, valeur numérique, 86 en hébreu. Hateva, c'est la nature. Elohim. Le mot Elohim en valeur numérique, c'est Hateva, la nature. Elohim, c'est le nom de Dieu qui s'occupe de gérer le monde naturel. Donc, un athée dira, c'est la nature. Un religieux dira, c'est Dieu. Mais tu n'as pas de réponse au mot pourquoi. C'est-à-dire, c'est comme ça, point barre. C'est une donnée, il faut accepter. Et c'est une autre phrase. On refait le coup. Je te saoule. Pourquoi? C'est embêtant comme question, pourquoi?
Apparemment, je ne sais pas, quelqu'un qui revient du boulot, comment ça lui prend la gueule?
Tu parles de moi? Pourquoi, quand on revient du travail à cette heure-ci, on nous saoule avec des considérations philosophiques, on ne sait pas où est le but de l'histoire, alors qu'on est fatigué, on va bien aller dormir? Hein? Pourquoi est-ce que, lorsqu'on est fatigué, après une journée de travail, il est difficile de réfléchir à des idées purement philosophiques dont on ne voit pas tout à fait l'utilité à prime abord. Pourquoi ? Fatigue. On a vu fatigue du corps, maintenant fatigue de l'esprit. L'esprit est fatigué, il a besoin de décompresser, et non de nouveau se compresser dans les histoires, surtout que cette gymnastique intellectuelle qu'on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Pourquoi est-ce que le corps a-t-il besoin de décompresser ? Parce qu'il est conçu comme ça. Pourquoi est-ce qu'il est conçu comme ça ? Donner. N'importe quelle phrase que vous dites, n'importe laquelle, vous ne tenez pas plus que 5, 6, 7 pourquoi. Après, tu arrives, Dieu. C'est comme ça. Alors la question, ah, pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu il a voulu ça? C'est la question des questions. Le problème, c'est que quand on parle de Dieu, on a tendance à faire des projections de nous-mêmes sur Dieu. Et là est l'erreur. Nous sommes dans le monde du fini, et Dieu est dans l'infini. Nous sommes dans le temps, Dieu n'est pas dans le temps. Nous, on fonctionne par un système très simple. Si on a une action, elle a été motivée par un stimulus, quelque chose qui a... J'ai faim. Pourquoi j'ai faim? Parce que il y a un pourquoi. Parce que je manque d'énergie. Pourquoi tu manques d'énergie? Parce que mon corps est comme ça. Il y a toujours un pourquoi. Il ne peut pas y avoir une action sans qu'il y ait un effet, sans qu'il y ait une cause. Impossible. Donc, chaque fois que tu as un effet, tu poses la question, pourquoi? Quelle est la cause qui a provoqué cela? On te donne la cause. Ok, alors quelle est la cause de la cause? On te donne la cause. Maintenant, tu veux savoir maintenant quelle est la cause de la cause de la cause de toutes les causes? Mais c'est Dieu. Donc Dieu, il veut. Quelle est la cause de son vouloir? Pourquoi Dieu, il veut? Admettons qu'il y aura une cause. La cause qui fait que Dieu veut. Attends, qu'est-ce qui est plus grand? La cause ou l'effet? Qui est plus grand, la cause ou l'effet?
La cause.
La cause. Elle peut produire l'effet. L'effet, c'est un poilioce, c'est comment dire ça en français? C'est une conséquence. La cause qui est capable de produire un effet est bien plus grande que l'effet. Donc si Dieu maintenant il agit pour cause X, qui est plus grand, X ou Dieu? Trop fatigué?
X.
Donc si Dieu agit pour raison X, X est plus grand que Dieu, donc il y a un Dieu du Dieu, qu'on va appeler X, n'est-ce pas? Qui a provoqué le vouloir de Dieu. Bon, alors parlons de X qui est le Dieu du Dieu. Attends, X il a un désir, il a fait. Pourquoi il veut? Ben, il y a une cause qui a provoqué, on va appeler Y. Qui est plus grand, Y ou X? Y. Bon, Y il veut. Bon, alors, on comprend qu'on finit pas tout. On veut vraiment la cause des causes des causes. Bah, à la base. C'est infini. Alors, à la base, et c'est là où c'est dur, si on a un peu de maturité intellectuelle, vous êtes des étudiants, vous allez tout comprendre ce que je veux dire, c'est que nous, on a une projection de comment fonctionne l'être humain, ou le monde qui nous entoure, et on refait ça sur Dieu. Or, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il est la cause des causes. Il est la cause première. Il veut. Pourquoi il veut? Parce que tel est son vouloir. C'est tout. Et c'est pas un jeu de mots, c'est la cause des causes. Il n'y a pas de cause plus puissante que le fait que Dieu veuille. Pourquoi il veut? Il a une très bonne raison de vouloir. Quoi? Il veut. C'est la raison des raisons, parce qu'il est la cause première. C'était une parenthèse. On va dire aux choses un peu plus... Donc Dieu, parce qu'il veut, veut octroyer le bien. Il crée le monde. Étant parfait, il doit créer un monde qui est parfait. Sinon, il ne fait pas le bien, il fait le mal. Alors, j'entends que Dieu est parfait, qu'il est le bien infini, qu'il est super extraordinairement l'absolu dans le bien. Et je vois sa création qu'il a créée pour nous faire du bien. Et qu'est-ce que je dis? Tintin. Franchement, pas très calé, hein. Genre, dans le coup raté, c'est plutôt raté. La moitié des couples qui pètent, la moitié qui se shootent à l'héroïne ou à la coke ou au shit, la troisième qui est dépressive, la quatrième, je sais pas moi, terroriste. C'est un monde terrible. Complètement raté. Tu connais un type qui est heureux là sur Terre? À votre âge encore, peut-être de temps en temps. Hein. Un monde de malheur, de faim, de Shoah, de tristesse. Et pour finir, sous terre. Alors là, c'est couché, ça c'est. Dieu est parfait, il veut octroyer le bien, et il crée ce monde. On va expliquer. Dieu effectivement est parfait. Étant parfait, veut me donner, m'octroyer le bien le plus parfait qu'il puisse y avoir. Quel est-il? Un petit sketch, c'est moi Dieu, vous êtes l'humanité. Et vous avez une entrevue très spéciale avec moi, en privé, là, à l'hôtel. Comment s'appelle l'hôtel? Déborah. Et vous écoutez les potes, ce que vous voulez, moi je suis Dieu, je vous donne. Je peux donner tout. Et je vais vous donner le meilleur qu'il puisse y avoir. Qu'est-ce que vous demandez? Un rata, une cala? Non, bon. L'argent, une Ferrari, quoi? La paix dans le monde? Le savoir? Pourquoi ça sert le savoir? Le roi Salomon a dit Mosif dat, Mosif marov. Celui qui a plus de dates, a plus de douleur. Un enfant, il est heureux. 6 mois dans le bras de sa maman, tout va très bien. Plus tu deviens inconscient, plus tu vas, c'est la galère de ce monde. Alors, qu'est-ce que vous demandez? La santé. La santé. T'es en bonne santé? Bon, Hachem. T'es le top du bonheur? Tu pourrais avoir mieux. T'es en bonne santé, mettre un contrôle fiscal. Pas la joie.
La tranquillité.
Tranquillité. Ouais, je suis tranquille. Je suis en train de faire une dépression tellement je m'ennuie. Là. Dans le, à gauche, à droite, droite, à gauche, comme ça. Très tranquille.
La joie.
La joie. Hein? Être heureux. La joie. Ok, c'est bien.
Oui, la prison.
La compréhension. Tout ça, c'est pas parfait. Un bonheur, et puis quelqu'un sera encore plus heureuse. Ou tu comprendras de façon partielle, on peut encore comprendre encore plus. Quel est le cadeau le plus parfait que Dieu puisse me donner? Qu'est-ce qu'il y a de plus parfait dans le monde? Sagesse. Bon, mais elle est limitée. Donc il y a toujours plus. Voyons un truc, c'est le top niveau. Il n'y a pas plus. Moi, je suis Dieu, je vous donne. Je ne vais pas donner un petit cadeau de rien du tout. Tu demandes à Dieu, tu demandes le top du top du top. Oh là là. Bezrat Hashem. Mais quand vous l'aurez, vous m'appellerez, d'accord?
Il n'a pas déjà donné un peu dans la vie. Prendre sa place.
Ah! Ah, ça devient intéressant. Comment tu t'appelles, cher ami?
David.
Dieu, il est parfait. Eh ben moi, je veux toi. Je veux être Dieu. C'est le plus parfait qu'il puisse y avoir. Moi, je peux donner ce que je veux. Je donne la vie, je donne un enfant, je donne une copine, je donne de l'argent, tout ce que tu veux. C'est limité. La source de tous les bonheurs, la source de la vie, la source de tous les biens que tu peux dire, c'est quoi? Dans une amplitude infinie, maximale, absolue, le top du top du top, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Dieu crée ce monde et me propose, tu sais quoi ce que je te donne? Je te donne moi. Viens, prends. Fantastique. Alors c'est quoi Dieu? Dieu, on ne sait pas qui il est. Mais il se manifeste, il a un nom. Le nom exprime l'essence. En hébreu en tout cas, on fera peut-être un jour un cours là-dessus. Le nom exprime l'essence. Le nom de Dieu, c'est le nom qu'on n'a pas le droit de prononcer. C'est quatre lettres, Yud, et puis il faut dire et puis Hei, et puis Vav, et puis Hei. Belshem Havaya, le nom de Havaya, de l'être. L'être, être. C'est la contraction de trois mots en hébreu, Havaya, Yud Kevavke, c'est la contraction de Haya, Hove, Veye, qui était et sera. En français, il traduit cela l'éternel. D'accord? Être. Quand je viens de ce monde, quand je regarde ce monde, en tant que philosophe non-juif, je vois que le monde, au moins, il est. Il y a de l'être. Quelle est la source d'être? Yudke Vavke. Il est. Donc, première chose qui me donne, c'est être. C'est-à-dire quoi être? On peut dire que ce verre, il est, n'est-ce pas? Mais c'est un être très très petit. Pourquoi? Dans quelques temps, il disparaît. C'est un verre jetable, comme indique son nom. Donc c'est un être jetable, c'est pas un être absolu. Prends un exemple. Je prends un robot. Je le programme. Le robot, il est extrêmement... Il vit une vie intense. C'est quoi vos plus beaux rêves? Du scuba diving atomique dans la fosse des Philippines. Du ski en neige vierge dans l'Everest. Planeur au-dessus de l'Alaska. En boîte. La boîte avec la bombe, avec le vin, avec à 15 000 euros la bouteille, avec Bush à ma gauche et Obama à ma droite. D'accord? Et ça, mon robot, il fait tout ça. Il s'éclate. C'est pas le Club Med, c'est le Club... J'ai pas de nom, d'accord? Le Club. Donc tout ce qu'il fait, c'est moi qui programme. Lui, est-ce qu'il est? Il n'y a rien. Rien. C'est une machine programmée, de A à Z. Il n'est pas. Je peux même faire des senseurs. Il y a des senseurs, comme un être humain. C'est un être humain, hein, un golem, un robot très performant. Il y a des senseurs. Il sent de la jouissance, il sent de la douleur. Mais tout ça, c'est programmé. Et quand il y a une jouissance, il fait « Ah, 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 qu'est-ce que je suis content !» Et quand il est, il souffre, il dit « Ah, ah, qu'est-ce que j'ai mal !» D'accord? Il peut, une programmation. Est-ce que le robot est? Il n'est pas. Le jour où moi je lui dis aujourd'hui ping-pong, il me dit non, aujourd'hui sieste. Je lui dis attends, il y a un problème là. Ping-pong. Et le robot me répond non, sieste. Contrairement à ma programmation. Là le robot est. Parce que moi je lui dis une chose, je programme et lui dis non. C'est-à-dire il y a un être différent que moi, qui il y a une volonté. Propre. Dieu est le grand programmateur de l'univers. De l'univers, il y a combien de règnes? Minéral, végétal, animal, humain, et moi j'ajoute angélique, c'est-à-dire tout ce qui est les notions divines. Cinq règnes. Dans le monde minéral, dans le règne minéral, est-ce qu'il y a des êtres vivants, vivant d'après l'être, d'après la définition que j'ai donnée, un être qui a une volonté propre à lui. Il est par lui-même. Une volonté intrinsèque. Un être intrinsèque. Il y en a ?
Non.
Impossible. T'as un caillou de granit, il dit j'aurais bien voulu être un diamant. Il peut. Il reste granit. Végétal. J'aurais bien une tulipe qui aimerait bien être un coquelicot. Désolé, ma chère, tu restes tulipe. Animal.
Oui.
Oui. Le chien. Le chien se trouve devant un choix. Un choix existentiel. Et devant lui, un nonos de bonne qualité. Mais je mets devant lui un gourdin. Et il comprend que s'il prend nonos, c'est un coup de gourdin. Il doit choisir. Parce que d'un côté, s'il prend nonos, alors il y a une jouissance, mais un coup de gourdin, ça fait mal. Alors pas de gourdin. Et pas de gourdin, pas de nonos non plus. Ça fait mal aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Nonos, gourdin. Gourdin, nonos. Est-ce qu'il a un choix? Hein? Aucun choix. Il est programmé par le grand programmateur qu'on appelle la nature ou Dieu, comme vous voulez. Tous les animaux ont une programmation qui part depuis le bas, souffrance intense, plaisir intense. C'est la seule chose qu'ils ont. Sa programmation lui dit, fuis la souffrance, recherche la jouissance. Alors comment il va réagir? Ça dépend. Si c'est un chien affamé, ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé, il voit le bononos, il le prend, quitte à recevoir même 3 coups de gourdin. Parce que la faim qu'il a, elle est pire que le coup de gourdin. Si c'est un chien gâté, il vient de sortir d'un repas canigou chez Maxime, et voit un bononos et le gourdin. Ben, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je me risque pas. Moi, c'est un coup de gourdin pareil pour un nonos pareil. Donc, il refuse. Donc en fonction de la souffrance, jouissance dans l'échelle, il va choisir. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Tous les animaux fonctionnent comme ça. Mais de choix propre, il n'y en a pas. On est d'accord là-dessus?
Le robot aussi.
Le robot aussi. Le robot aussi. Le robot n'existe pas. Je suis en train de dire maintenant que rien n'existe. Tous sont programmés, c'est tous des êtres morts. Il y a un grand programmateur, la nature, qui tu veux, Dieu, tout est programmé. Les cailloux, les végétaux, les animaux, tu voulais dire.
Il n'y a pas un rapport avec la conscience de lui-même. Franchement, c'est comme ça qu'on définit normalement.
D'accord. Un animal a-t-il la conscience de lui-même? Donc il n'y a pas de libre choix. On est d'accord. Donc il est programmé. On est d'accord là-dessus? L'être humain, je passe au-dessus. Les anges. Est-ce qu'un être divin, il y a des réalités divines, peut-elle faire autre chose que ce que dit le grand programmateur? Il lui dit un ange, va t'occuper maintenant de lui. Il dit non, je suis fatigué aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Volatiliser, on rigole pas. Que le monde des anges, un ange ne peut pas faire autre chose que ce que Dieu dit. Eh bien, Dieu a créé le quatrième, là, l'être humain. L'être humain. L'être humain, c'est la révolution.